continuer notre étude qu'on avait commencé sur les héros de la foi. Et on va lire rapidement, en fait, en ce qui concerne, on s'était arrêté la dernière fois avec Isaac et Abraham. Vous vous souvenez comment est-ce que Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, selon le fils de la promesse. Comment est-ce que Dieu avait demandé d'aller le sacrifier? Comment est-ce que Dieu est intervenu vraiment au dernier instant? Et ensuite de ça, on voit différents personnages. Hébreux 11, à partir du verset 20, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. On voit, entre autres, bon, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, comment ces gens-là ont agi par la foi? Comment est-ce que ces gens-là ont agi en fonction d'une foi authentique qu'ils avaient en Dieu et comment ça les a menés à l'obéissance et à des actes, par exemple, de bénédiction, à des actes prophétiques, même en ce qui concerne Joseph, sur la sortie d'Égypte. On était vraiment tôt, là. C'était son père avec ses frères qui sont là et déjà, ils prophétisent qu'un jour, ils vont ressortir en disant « Quand vous allez partir, n'oubliez pas d'amener mes os avec vous. » Et puis, les parents de Moïse, qui ont vu le fils qui est né, qui devait mourir selon l'ordre du pharaon, et qui l'ont... Ils l'ont sauvé d'une façon où ce qu'ils l'ont mis d'un panier, et puis on connaît l'histoire, comment est-ce que Moïse a été sauvé des eaux. Ce soir, ce qu'on va voir à travers l'exemple de Moïse, c'est comment est-ce que Moïse est un héros de la foi. Et j'aimerais que... et je pense que c'est la volonté de Dieu, et il faut... que ça soit pour notre propre vie, à savoir que l'exemple de Moïse est applicable dans notre vie. Ça paraît banal la façon que je dis ça, mais des fois, on voit ces héros de la foi-là et on cite Moïse, qui est vraiment un super héros, et dans notre perspective, en tout cas pour la mienne, mais l'exemple de Moïse est applicable à ma vie. Ce que Moïse a fait dans sa relation avec Dieu, c'est vrai pour moi aussi. Parce que la façon que Moïse a obéi, comment est-ce qu'il a agi, comment est-ce qu'il a eu confiance en Dieu, c'est cette même foi-là que moi, je peux appliquer envers Dieu aujourd'hui et qui peut accomplir de grandes œuvres dans ma vie aussi à cause de cette foi-là. Et on connaît bien l'histoire de Moïse. On va lire les versets, ce soir, les versets 24 à 29. Et on va regarder 4 aspects de la vie de Moïse, disons des sections de la vie de Moïse, où ce que le texte lui-même est divisé en disant « c'est par la foi que Moïse a ». Et à 4 reprises, ça revient. On va regarder ces 4 sections-là de la vie de Moïse, à savoir comment est-ce qu'il a vraiment fait confiance à Dieu dans différents aspects de sa vie et comment est-ce que Dieu est intervenu. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière et après ça, on va regarder ces textes-là ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et tu es notre Dieu à nous aussi. Et on est vraiment reconnaissant. On peut avoir cette relation-là avec toi, cette connaissance que l'on peut avoir de toi à travers les Écritures et on veut te louer pour ça. Seigneur, on te prie que tu touches nos cœurs ce soir, touches nos têtes et que tu transformes nos vies. On veut prendre l'engagement en même temps de prendre ces Écritures-là et de les appliquer dans notre vie pour qu'on se conduise, Seigneur, comme ces hommes, ces femmes qui sont des héros de la foi et que nous aussi, on veut avoir une foi qui est authentique et vivante. C'est à notre ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. C'est peut-être une citation que j'ai déjà donnée, je me souviens plus, je sais que je l'ai donnée à la jeunesse vendredi dernier. Vous vous souvenez, Abraham Lincoln, vous l'avez du moins entendu parler. Abraham Lincoln est un président des États-Unis qui est arrivé d'une période où ce qu'il avait comme promesse électorale d'abolir l'esclavage. Et ça a créé la division, on connaît la guerre de sécession qui s'est produite aux États-Unis à cause d'Abraham Lincoln, parce que les États du Sud voulaient qu'il soit mis à la porte. Il n'a pas été élu avec beaucoup. Je pense qu'il a été élu comme à 38% qui a été élu. Et puis tout ça pour dire que quand Abraham Lincoln a été élu, il a rempli sa promesse, à savoir qu'il allait abolir l'esclavage. Et une loi a passé comme quoi que maintenant l'esclavage était illégal. Et il ne devait plus y en avoir. Mais vous savez ce qui s'est produit à partir de ce moment-là? Pour certains, la vie a continué comme avant. Pour certains esclaves, parce qu'ils n'ont jamais su et jamais entendu que la liberté, elle était donnée maintenant. Ils sont restés sous leur ancien maître parce qu'ils n'ont pas entendu, sous un régime qui était dur à travers leur maître, que la liberté était acquise, qu'elle était donnée, qu'ils pouvaient vivre en homme libre. Ils sont restés comme ça. Et d'autres, vous savez ce qui s'est produit aussi, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui étaient esclaves, qui ont quitté leur maître pour aller vivre la liberté. Et une fois dans cette liberté-là, ils ont eu beaucoup de difficultés à vivre en homme libre, en femme libre. Et à cause des difficultés qu'ils ont eues, plutôt que d'apprendre à vivre comment est-ce qu'un homme libre vit, ben ils sont revenus à leur ancien maître en disant « Je préfère revenir esclave parce que c'est tout ce que j'ai connu, puis je préfère vivre comme tel aussi. » En tant que croyant, il ne faut pas que ce soit notre attitude. Un peu comme je disais ce matin, si Jésus a eu les mains liées, c'est pour que nous, on ait les mains déliées. Et dans le cas de ces esclaves-là, il y a deux catégories. Et la première catégorie de gens qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, qui ont une liberté qui est possible en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre rôle que de le propager, que de le dire aux gens. Mais nous, en tant que croyants, qui avons sorti de l'esclavage du péché, qui sommes libres maintenant, ben il faut faire attention à cette même chose-là que de ne pas revenir sous un esclavage. Et l'exemple de Moïse est vraiment concret, d'une façon à double sens, à savoir que c'est pas seulement l'esclavage du péché, mais l'esclavage du peuple dans un sens vrai, pratique, concret, où ce que Dieu a voulu les sortir de là. Et on connaît l'attitude du peuple au travers, suite à la libération. Vous vous souvenez comment le peuple, à maintes reprises, disait « On aurait dû revenir en Égypte, on était mieux avec ce qu'on avait là-bas. Et puis, on était peut-être mieux en esclavage que de traverser le désert. » Et puis, ben c'est un peu la même situation que je cite de ces esclaves qui sont sortis de l'esclavage sous Abraham Lincoln, qui voulaient revenir à leur ancien maître. Que ce ne soit pas notre attitude. Et à cause de la foi de Moïse qu'il avait, il a continué de marcher vers l'avant, d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu par sa foi, par sa confiance qu'il avait en lui. Mais c'est une chose qu'il a appris, à savoir comment est-ce qu'il devait marcher avec Dieu. Abraham, il a eu des difficultés au début de sa vie. On va regarder section par section. On va regarder les versets 24 à 26 pour commencer. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le texte dit que c'est par la foi que Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. OK, j'ai quelques questions pour vous. Quel avantage avait Moïse à être appelé fils de la fille du Pharaon? Il a refusé ça, mais quel avantage est-ce qu'il avait pris cela? Comment? Ça lui donnait du pouvoir. OK, c'est bon. Oui, Simon. Le prestige. Quoi d'autre aussi, Richard? Eh ben, l'héritage, et ça c'était beaucoup. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que ça lui donnait comme avantage? Oui, Gisèle. Peut-être, je sais pas, mais certainement, ça le plaçait dans un haut statut. Puis s'il était le fils de la fille du Pharaon, peut-être. En tout cas, du moins, il avait accès à des très hauts rangs. Oui, Céline? Et du confort, comparativement à ses frères, qui étaient dans l'esclavage. Et il y avait vraiment deux mondes, là. Si on prend le temps de penser à ça 30 secondes, là, le palais du Pharaon, puis de faire des briques avec de la paille. Qu'est-ce qu'a choisi Moïse? Il a choisi de souffrir avec le peuple. À un moment donné, il a pris sa décision, à savoir qu'il allait... il a grandi, il a été nourri par sa propre mère, et puis après, quand il était devenu grand, il est allé le porter à la fille du Pharaon. Elle a dit, maintenant, il est devenu grand, pour rester avec toi. Et là, ça a dit, le texte, que la fille du Pharaon l'appelait son fils. Il était comme un fils pour elle. Puis il a grandi. Mais on voit un moment de la vie de Moïse où ce que le texte dit, il alla vers ses frères. Il a vu leurs souffrances, il a vu leurs difficultés. Il a pris part, il a eu compassion d'eux. Il s'est associé à eux, puis il a voulu intervenir. Maladroitement, qu'on va voir un petit peu tantôt. Quel avantage humain Moïse avait-il de ne pas être identifié aux Hébreux? humainement, quel avantage il avait de rester caché, de dire qu'il n'est pas un Hébreu. Il s'évitait de la souffrance, pas de persécution, de la liberté conçue humainement, mais pas comme ce que Dieu voulait donner comme liberté. La liberté était sur le point d'arriver. Mais le texte dit, regardez, on va relire le verset 25. « Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Ça veut dire quoi, ça? Le péché produit du plaisir? Est-ce que c'est vrai? De la luxure, certainement, qui était associée au haut gradé près du pharaon. Et la jouissance du péché aussi. Le péché crée un plaisir dans l'instant immédiat et puis se transforme rapidement en amertume, se transforme rapidement comme un venin contre nous-mêmes. Sauf que la jouissance du péché, elle est immédiate. Le péché et ce que Pharaon aurait pu voir, c'est le plaisir immédiat que de rester comme ça avec le Pharaon, la fille du Pharaon. Et puis, mais qu'est-ce qu'il a considéré comparativement à ce qui était immédiat? Qu'est-ce qu'il a gardé en vue? La rémunération, l'opprobre de Christ. Il savait que, et c'est vraiment deux oppositions. Oui, M. Dumont? Oui. 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 Qu'est-ce qui motivait la foi de Moïse à accepter de se séparer du monde et des plaisirs du monde pour vivre pour Dieu? Qu'est-ce qui l'a amené à avancer dans cette foi-là, Gisèle? Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, il s'est associé et la rémunération pour lui était importante. Oui, monsieur, puis après ça, Serge. C'est ça. Et il a accepté un peu comme à l'image de Paul, comme vous dites, ou bien de Job, d'accepter de souffrir pour continuer de marcher avec Dieu. Oui, Serge. Oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Et merci Serge. Et en faisant le constat justement du destin des méchants versus ceux qui pratiquent la justice par la foi, ben le sort des justes est beaucoup plus avantageux que celui des méchants. Mais c'est vraiment une opposition, ce que je disais tantôt, à savoir que le péché donne un plaisir immédiat, mais rapidement se tourne contre nous. De l'autre côté, de suivre Christ par la foi, ça crée des difficultés, des souffrances, des oppositions. Mais en bout de ligne, le plaisir qu'il y aura dans le futur, la rémunération qu'il y aura dans le futur, ben, elle est de loin, elle n'est même pas comparable avec la jouissance du péché dans l'immédiat. Et c'est ce qui motivait la foi de Moïse. C'est ce qui l'a motivé à être identifié à son peuple et à dire « Je renonce à ce monde. » Et c'est vraiment ce qui est intéressant de voir que Moïse a cherché à se séparer, je le dis d'une façon imagée pour que ça s'applique à nous, mais à se séparer du monde et des plaisirs du monde pour vivre comme ce que Dieu veut que l'on vive. Et c'est ce qui motivait sa foi, c'est ce que Dieu lui promettait. Et les promesses, la foi, vont avec l'espérance, la persévérance, c'est des mots qu'il faut tout garder ensemble pour que la foi soit continue d'être alimentée par l'espérance et l'espérance, la persévérance à travers la foi. Et alors, c'est des choses qui sont importantes. Je vais vous lire deux textes. J'aurais aimé qu'on y tourne, mais 1 Pierre 4, 13 et 14 dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Romains 8, 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, c'est un peu ce que je viens de dire, à savoir que la jouissance du péché, elle n'est pas comparable avec ce qui s'en vient dans le futur. C'est ce qui devrait encourager notre foi. C'est ce qui devrait encourager notre confiance que l'on a en Dieu, que Dieu est un rémunérateur fidèle. Il va nous le donner et ça vaut la peine. Même s'il y a des souffrances, même si on doit être identifié à un peuple ou à Christ, finalement, ce qui va nous donner certaines tribulations. On continue de lire le verset 27 dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, il y a des choses très intéressantes là-dedans à dire. Ça dit qu'il a quitté l'Égypte sans crainte du Pharaon. Comment était la foi de Moïse à sa première sortie d'Égypte? Elle a eu lieu quand, la première sortie d'Égypte pour Moïse? Quand il a eu peur du Pharaon, il s'est sauvé. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé? On le voit dans Exode 2, 11 à 15. Il a vu un frère maltraité. Il l'a battu. Il a battu l'Égyptien qui maltraitait son frère. Et il est mort. Et puis là, même les frères, les Hébreux disaient, « T'es qui? Tu penses-tu être notre chef? » Puis là, il a eu peur. Puis là, il a entendu que Pharaon courait après. Il a eu peur. Alors, tout le monde était contre lui. Et il est sorti d'Égypte. Et sa foi, elle était peut-être faible à ce moment-là. Elle n'était peut-être pas très grande. Comment est-ce qu'il a agi? Est-ce que c'était par la foi ou par la chair, à ce moment-là? Il a agi peut-être par la peur. Pour sortir, il agit par la chair, puis finalement, ça lui a créé beaucoup de peur et de mauvaises conséquences, et s'est sauvé. Mais Dieu l'a utilisé pendant cette fuite-là, dans le désert. Mais qu'est-ce que ça l'a donné comme résultat? Mais il est parti 40 ans, errant dans le désert, à garder les brebis de son beau-père. Pourquoi est-ce qu'il a quitté l'Égypte à ce moment-là? Parce qu'il avait peur du Pharaon. Il a eu peur du Pharaon. Il a eu peur des gens qui couraient après. Mais... tournez dans Exode 10. Regardez votre signe dans Hébreux 11. Exode 10. Versets 28 et 29. On va voir plus en détail tantôt l'Exode, le jour même, là, si je peux dire, quand il va traverser la mer Rouge. Là. Mais il y a eu un moment dans la vie de Moïse, qui n'avait plus peur du Pharaon. Parce que Dieu était avec lui. Et à cause qu'il avait sa foi en Dieu, une foi authentique, et il n'avait plus peur de ce qui pouvait se produire. Et juste pour résumer, avant qu'on aille lire, Moïse, quand il était dans le désert, il donnait des bonnes raisons, on va dire ça, des bonnes raisons humaines pour dire, mais voyons donc Dieu, je ne peux pas retourner là pour aller chercher ces gens-là. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il donnait comme raison? Ouais, j'ai pas une facilité de parole. J'ai dit, je serais pas capable d'aller parler au Pharaon. Et je bégayais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème, mais il se voyait comme quelqu'un qui n'était pas capable de parler. Qu'est-ce que t'as dit? Il quoi? Ah oui, c'est ça, il s'en donnait des problèmes. Et puis le premier, la première raison qu'il disait, il dit, je vais y aller, puis les gens ne croiront pas. Ils ne croiront pas, ils vont penser que je suis quelqu'un comme n'importe qui a eu une vision quelque part, puis ils ne me croiront pas, puis ils vont dire, c'est qui l'Éternel? Et puis, fait que là, Dieu est intervenu, puis il a dit, par exemple, le bâton que tu as, lance-le par terre, puis là, il est devenu un serpent. Le texte est drôle parce qu'il devient un serpent, puis en devenant un serpent, Moïse se met à courir parce qu'il a peur du serpent, du bâton qui venait de donner par terre. Mais là, Dieu lui dit, prends courage, puis prends-le le serpent, puis il est devenu un bâton. Juste un instant, OK, je vais continuer. Et puis les cinq arguments, peut-être qu'on y reviendra. Mais juste retenir deux exemples pour dire comment est-ce que Dieu a fait grandir la foi de Moïse. Alors, le bâton, puis vous vous souvenez c'est quoi? La main, avec la lèpre. Alors Dieu a dit, tu vois, je suis capable de faire des miracles. Comment? OK, mais ça c'est les plaies. Si c'est ça, je me souviens plus du texte, c'est vrai. C'est probablement la plaie d'Égypte. Mais il y a eu la main qui est devenue en lèpre. Bref, ce que Dieu est en train de dire, c'est que je peux faire des miracles. Moïse, je vais être avec toi. Et il a fait grandir la foi de Moïse. Moïse est en train d'être instruit par Dieu. Sa foi est en train de grandir. Et puis Dieu lui a montré qu'il pouvait faire des miracles. Il retourne en Égypte, et là, on arrive à Exode 10, après les plaies d'Égypte, Exode 10, 28 à 29. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, puis garde-toi de paraître encore dans ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Verset 29, « Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus dans ta présence. » Moïse était rendu à un point où on était à la fin des plaies et que sa foi, elle était rendue ferme. À savoir que il a vu les plaies d'Égypte, il a vu comment est-ce que Dieu intervenait, comment est-ce que Dieu était puissant. Et quand que Dieu fait quelque chose dans nos vies, c'est vrai, et il nous accompagne. Dieu accompagnait Moïse maintenant et Moïse avait cette confiance-là. Et il n'avait plus peur du Pharaon. Pour lui, c'était plus... Sa crainte, elle avait changé de personne. Elle était dirigée vers qui, la crainte de Moïse maintenant? Sur qui? Sur Dieu. Il craignait Dieu maintenant. Il n'avait plus peur de Moïse, du Pharaon pour se sauver de lui, mais il craignait Dieu, puis c'est pourquoi il lui obéissait. On fait juste relire la fin du verset 27 de Hébreux 11. Qu'est-ce qui a amené Moïse à ne plus craindre le Pharaon? Il ne voyait plus le Pharaon, mais qui il voyait maintenant? Il voyait celui qui est invisible. C'est drôle quand on pense à ça. Il voyait celui qui est invisible. Pourquoi Moïse voyait Dieu maintenant? Parce qu'il avait foi en Dieu. Il le voyait. Vous vous souvenez, ce matin, on citait, je le lisais tout croche, heureux ceux qui ont cru sans voir. Le monde voudrait voir, les gens du monde vont dire, montre-moi, puis je vais croire. Puis Dieu, il dit, crois en moi, puis je vais te montrer. Et faut le croire pour le voir, c'est pas vrai avec Dieu. Faut le croire pour le voir, mais faut pas le voir pour le croire. OK, je vous lis quelques textes. Je vous lis quelques textes rapidement. On recule, faites juste reculer au début du chapitre 11. Ça nous est répété. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que la foi crée. Quand je crois en Dieu, je vois Dieu agir aussi. Et puis ça, ça fait grandir encore plus ma foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais Dieu a créé à partir des choses invisibles. Dieu est intervenu et ça, c'est par la foi. Et la foi devient une ferme assurance. Jean 14, 15 et 9, ça dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous quoi? Vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. C'est ce que la foi fait en nous. Les gens du monde ne le voient pas parce qu'ils ne croient pas en lui. Les gens du monde ne croient pas en l'Esprit, n'ont pas l'Esprit parce qu'ils ne croient pas en lui. Mais nous, on voit Dieu. On voit Dieu agir dans nos vies. On voit l'Esprit, on voit Christ parce qu'il vit en nous et on vit à cause de lui. Et on voit l'œuvre de Dieu à cause de la foi. 1 Pierre 1, 8 et 9 nous dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix. » Pour prix de quoi? De votre foi. On ne le voit pas encore, mais un jour on va le voir, puis on va avoir une récompense à cause de ça. On aura cru en lui sans l'avoir vu comme Pierre le voyait. Il l'avait déjà vu. Et j'ai plein d'autres bons textes encore. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, je vous lis rapidement. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà... Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et c'est à cela qu'on regarde. 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Tout ça pour résumer, je vous ai lancé plein de textes, pour résumer que Moïse voyait Dieu, et c'est pour ça qu'il marchait pour lui, il avançait pour lui, et il ne craignait pas Pharaon, parce que celui qu'il voyait, c'était plus Pharaon, c'était Dieu. Et c'est lui qu'il craignait maintenant, c'est lui qu'il voyait, bien que Dieu est invisible, maintenant Moïse avait une relation personnelle avec Dieu. Et c'est vrai pour nous aussi, on a l'occasion de voir le Dieu invisible, d'avoir une relation avec Dieu, et de le voir, et de voir son travail dans notre vie, à cause de la foi qu'on a placée en lui. OK, on continue, je vous invite à revenir, bien, je ne vous ai pas fait tourner, mais dans Hébreux 11, le verset 28. « C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » C'est par la foi que Moïse a immolé la Pâque. Qu'est-ce que le sang représentait? Qu'est-ce que le sang signifiait? On se place dans la peau d'un Hébreu, d'un Israélite à ce moment-là. Qu'est-ce que ça représentait? Il y a plein de sens, mais particulièrement le sang. Quand l'exterminateur est arrivé à la porte, est-ce qu'il avait besoin de juste voir du rouge? Pourquoi le sang était important? C'est un signe d'une alliance, du moins, à cause du sang. Comment? Le sang, c'est la vie. OK. Autre chose, qu'est-ce que ça signifiait, cette Pâque-là? Ouais. Il passerait outre à cause qu'il y avait eu un sacrifice dans cette maison-là. Naomi? OK. Un signe d'obéissance aussi. Imaginons pendant un instant que les Hébreux, pendant des années et des années, il y a un temps de silence, 400 ans, où ce que les Hébreux sont esclaves, ils entendent, ils ne voient pas Dieu, Dieu n'intervient pas et ils sont dans leur. Ils connaissent ce qui a été donné. Mais là, Dieu intervient. Moïse est là, et c'est une des premières fois que chaque famille hébreu ont, eux, à faire quelque chose, c'est-à-dire que d'immoler la Pâque dans chaque famille, qu'ils ont un agneau à sacrifier, à prendre le sang, puis à le mettre sur la porte. C'est un acte de foi aussi pour chaque famille hébreu, où ce qu'ils se disaient, maintenant, je crois au Dieu, je crois à l'Éternel. J'ai vu ce qui s'est passé avec Moïse, avec les plaies qui s'est produites, et puis moi, je m'identifie à Dieu. Et puis, chaque famille hébreu, pour une première fois, ils avaient à faire cette action-là, à dire que je vais immoler la Pâque. Je vais sacrifier un agneau. Je vais prendre son sang. Moïse a tout expliqué en détail qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il avait reçu comme instruction. Il devait prendre le sang, le mettre sur les linteaux. Et comme vous avez dit, mais quand l'exterminateur arrivait, il voyait la foi, j'imagine, de ces gens-là. Ils voyaient comment est-ce que le sang était sur les linteaux et passaient outre. À cause qu'il y avait eu un sacrifice. Et ça, c'est... est-ce que c'est les gens de la famille étaient tous sauvés? Je pense qu'il y a une image là-dedans que Dieu passe outre une condamnation par le sacrifice à cause de la foi que l'on place en lui. Et il y avait une condamnation qui s'est étendue sur l'Égypte. Et les premiers de chaque famille allaient y passer et en ont souffert grandement, sauf les Israélites, parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Oui, Normande. C'était vraiment le moment marqué, mais il y avait eu des enseignements quand même passés, parce que Abraham était un homme qui faisait des sacrifices. Et le peuple hébreu n'était pas sans ignorer que Abraham avait fait des sacrifices et qu'ils étaient la descendance aussi. Abraham, Isaac, Jacob et le peuple qui s'est multiplié maintenant aussi. Fait qu'il y avait certaines connaissances, mais je pense que c'était une première fois pour eux qu'ils, d'une façon concrète, comme je disais tantôt, où ce qu'ils prenaient un agneau, versait le sang, prenait le sang, mettait sur la porte. Oui, Danny. Ouais. Ouais. Et évidemment, puisque c'était une famille qui était à l'intérieur d'une maison, est-ce que tous les gens à l'intérieur de cette maison-là avaient placé leur foi en Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. C'est ça. Et c'est ça. Et je pense que, comme tu dis, c'était un moment précis, contextuel, d'une dernière plaie d'Égypte. Et la famille était sauvée à cause qu'ils étaient placés sous le commandement que ce que Dieu avait donné comme juste un instant pour laisser terminer. Oui. 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 C'est ça. Ouais. C'est ça. Et évidemment, cet événement-là de immoler la Pâque est directement applicable au sacrifice de Jésus. Évidemment, là, c'est les deux vont ensemble. Et puis maintenant, c'est cette nouvelle alliance-là qui est en Jésus-Christ, qui lui est l'agneau sans défaut, sans tâche, qui place son sang sur nos vies, qui fait qu'on est sans condamnation, qu'on ne pourra pas mourir. Est-ce que ça va pour le commentaire? Oui. Et tout ça pour dire qu'il y avait un jugement appliqué avec l'exterminateur qui devait passer. Et. Oui. 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 Merci. Et Moïse, il a reçu de la part de Dieu ce qu'il devait faire. Comment est-ce que Moïse a manifesté sa foi? Dieu lui avait donné des directives. Il les a transmis intégralement au peuple. Le peuple a écouté ce que Dieu a dit. Moïse a obéi à ce que Dieu avait dit. Et l'exterminateur, quand il est arrivé, les gens qui ont obéi à Dieu à la lettre ont été sauvés. c'est la foi qui les a sauvés de l'exterminateur parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont cru que Dieu disait, il y a un jugement qui s'en vient. Et voici ce que vous devez faire pour y échapper. Ils l'ont fait. Ils ont été sauvés à cause de ça. C'est par la foi que Moïse immola la Pâque et qu'il fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Verset 29, pour terminer, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Imaginez pendant un instant, et là j'aurais aimé qu'on lise Exode, on n'a pas le temps, mais j'aurais aimé qu'on lise Exode 14, 10 à 31, qui est le récit, comment est-ce que le peuple est sorti de l'Égypte. Et puis, je vous encourage à lire, si vous voulez lire, j'ai été vraiment béni en relisant cette histoire-là, de voir comment est-ce que Dieu, il dit, je veux faire éclater ma gloire devant les Égyptiens, devant vous, je vais me glorifier. Et ça demandait beaucoup de foi. Et imaginez pendant un instant, le peuple qui sort, et la foi du peuple, elle était faible aussi, là. Elle était un peu comme ce que Moïse était à sa première sortie. Heureusement, Moïse était là pour encourager le peuple, pour continuer d'être un leader pour eux, même si ce peuple-là était dur envers Dieu. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, et puis là, ils commencent à crier. Ils crièrent à l'Éternel, puis on crie à Moïse, puis ils disent, « Ben là, Moïse, il y en avait des tombeaux là en Égypte, là. Pourquoi tu nous en amènes ici? » Là, il me semble qu'on préfère mourir en Égypte que de mourir dans le désert, finalement. Et déjà, la foi du peuple est un feu de paille, déjà diminué. On est prêt à retourner. Puis Moïse dit non. Dieu va nous sortir de là. Et puis Dieu revient dans le texte. C'est quoi ces cris-là que j'entends? Il entendait le peuple chialer. Il entendait le peuple murmurer déjà à son premier coup. Et puis, Moïse il disait, arrêtez, taisez-vous. Et puis, Dieu a donné ses instructions, puis Dieu est intervenu directement. Moïse disait, Dieu va combattre pour nous. Ils étaient pris entre la mer et les Égyptiens qui s'en venaient. Et ce que Dieu a fait, vous souvenez, la nuée de feu est allée derrière eux pour les protéger. Elle est allée derrière eux, ils ont fait attendre. Là, la mer s'est ouverte, fait souffler un vent impétueux venant de l'Orient. La mer s'est fendue en deux. Imaginez la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, de voir la mer qui se fend en deux, qui traverse à pied sec. Répétez à plusieurs reprises, ils ont traversé à pied sec. La mer, ils avaient comme des murailles à côté d'eux, à gauche et à droite. Ils ont traversé dans le milieu et Dieu les retenait. Et puis là, tout à coup, une fois que le peuple a traversé, les Égyptiens s'en viennent. Et là, le texte dit que Dieu brisait leurs roues. Les roues de leur char, ils étaient plus capables de rouler, ils avançaient tout croche. Là, ils ont eu de la difficulté, ils sont arrêtés dans le milieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a refermé la mer, puis il a condamné les incrédules. Il a jugé les Égyptiens, et la foi des Hébreux a grandi. Si on lit le dernier verset de Exode 14, 31, ça dit que la foi, ils ont cru en l'Éternel et au serviteur de Dieu, Moïse. Leur foi, elle était grandie. Ils ont vu, et là, si on lit Exode 15, c'est un cantique que le peuple fait pour Dieu pour dire, on a vu sa gloire éclater. On a vu comment est-ce que l'Éternel est puissant. Et la foi du peuple, déjà là, grandissait parce qu'ils ont vu l'action de Dieu. Ils ont vu comment est-ce que Dieu agissait par la foi, parce qu'ils avaient confiance en lui. Et heureusement, Moïse était là, il avait appris beaucoup de Dieu. Et Moïse a été là comme un héros de la foi parce qu'il voyait Dieu, parce qu'il avait une relation avec lui, parce qu'il avait confiance en lui. Il avait les yeux fixés sur la rémunération et ça lui faisait plaisir de laisser les jouissances du péché pour l'instant, de laisser l'Égypte derrière lui parce qu'il savait que ce qui s'en venait était de loin supérieur à ce qu'il pouvait avoir en Égypte. Que ce soit notre attitude aussi, j'avais Jude 3 à 7 que je voulais qu'on lise. Mais Dieu, ça dit, je vais juste vous lire un verset. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, que toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Il y a un jugement qui est là. Il y a un jugement de Dieu qui est encore sur ce monde. Mais ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Mais même s'il n'y a aucune condamnation à cause qu'on est en Christ, sur nous, Dieu veut qu'on marche par la foi, qu'on persévère dans la foi, qu'on continue de lui donner notre confiance et qu'on garde les yeux fixés sur lui, sur la rémunération, qu'on se rappelle des promesses de Dieu, ce qui va faire grandir notre foi, et qu'on continue de marcher et qu'on cherche à voir Dieu encore dans notre vie à cause de la foi qu'on lui place. Et en croyant Dieu, Dieu va se manifester dans notre vie. Et que ce soit un encouragement pour nous. Dernier commentaire ou question, si vous en avez, rapidement. OK, mais prions pour terminer. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci pour l'exemple de Moïse, qui est un homme, Seigneur, que tu as utilisé parce qu'il était obéissant à ta parole. Et c'est bon, Seigneur, de pouvoir voir comment est-ce que ces hommes-là, dans leur faiblesse, comment est-ce que tu les as utilisés pour faire de grandes choses. On croit, Seigneur, que tu peux faire la même chose avec nous à cause de la foi qu'on va te donner, à cause que l'on croit en toi. Seigneur, on veut continuer de marcher par la foi. On veut continuer de marcher dans ce monde-là en se séparant des plaisirs du monde, de marcher pour toi parce qu'on a les yeux fixés sur toi, sur la rémunération. Tout ce que tu nous promets, Dieu, est de loin avantageux à tout ce que le malin peut vouloir nous proposer. On veut te louer pour ça, pour ta fidélité, parce que tu nous accompagnes, tu nous tiens la main. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen.